Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Elle débrief.
Elle débrief.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui revient sur un grand fait de l'actu people chaque semaine. Et comment ça va vous ? Je veux dire, sur une échelle de 0 à Gwyneth Paltrow, on est comment ? Alors, petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient fait une détox médias, réseaux sociaux et vie sociale depuis plusieurs semaines. L'actrice vient de gagner un procès complètement lunaire où elle était accusée d'avoir grièvement blessé un homme de 76 ans lors d'un accident de ski. Je suis Elisa Casson, journaliste forme et beauté, et en suivant ce grand moment de justice américaine, je me suis dit deux choses. Un, je ne comprends toujours pas l'intérêt de partir au ski. Et deux, Gwyneth Paltrow est quand même très fascinante. Entre ses conseils bien-être complètement loufoques et dangereux, et ce procès qui a fasciné la sphère people, on en oublierait presque sa carrière d'actrice. Et pour en parler avec moi, je suis accompagnée du sosie officiel d'Eddie Dropreto qui aurait mangé Plastique Bertrand. Ah Mathieu Bobardelière, journaliste mode. Salut Mathieu.
Hello Elisa.
Pour toi, Gwyneth, c'est une actrice, une gourou bien-être ou un danger sur les pistes?
Moi, c'est une championne olympique de slalom. Non, pour moi, c'est une actrice, ouais. C'est une actrice, mais c'est une people, ouais, avant tout.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, ces dernières années, l'actrice a surfé sur les bad buzz à répétition. J'en parlerai plus tard, mais sa marque de bien-être Goop ne fait pas l'unanimité. Sa carrière d'actrice, elle n'est pas au beau fixe. Et puis bon, même si elle a gagné son procès, c'est pas très très glorieux qu'on parle d'elle pour sa capacité à monter sur des skis. Alors avant de se plonger dans le vif du sujet, on va remonter le temps, direction les années 90.
Elle débrief.
Gwyneth Kate Paltrow est une Nepo Baby. Et oui, elle est la fille du réalisateur Bruce Paltrow et de l'actrice Bliss Danner. Dès son enfance, elle suit ses parents sur les plateaux de cinéma. Pourtant, ni sa mère ni son père l'encouragent à devenir comédienne. La priorité est donnée aux études, qu'elle réussit plutôt bien après une année d'échange en Espagne pour apprendre la langue. Elle rentre aux États-Unis étudier l'anthropologie à l'Université de Californie. Et puis, sa mère l'invite à partager la scène au théâtre. Et là, c'est la révélation. Elle quitte tout pour suivre son nouveau rêve, devenir actrice. Mathieu, fais-nous un petit point sur sa carrière d'actrice.
Bon alors, plutôt que de vous bassiner avec sa longue carrière au cinéma, j'ai décidé de vous parler de Gwyneth Paltrow en quelques rôles cultes sur petit et grand écran. Est-ce que ça te dit ?
Ça me dit.
Dimanche.
je garde cette blague nulle, je le garde au montage.
Voilà, allez, hop, rire et chanson, on est parti. Bon, je pense qu'on peut commencer par son premier grand rôle, celui de Tracy Mills dans Seven, un film que tu aimes bien, je crois.
Oui.
Ouais, j'en étais sûre. De David Fincher, évidemment, en 1995. Alors, c'est un des rôles qui a révélé Gwyneth Paltrow au grand public. C'est un thriller, elle y interprète le rôle de la femme de Brad Pitt. Tiens. Alors, c'est une petite apparition, on la voit pas énormément, mais ça fera quand même pas mal parler d'elle, car, bah, vous le savez, dans la vraie vie, il me semble qu'elle a fricoté un petit peu avec le Playboy, mais je n'en dis pas trop.
S'il te plaît, oui.
On poursuit l'année suivante avec un rôle qui confirmera que l'actrice est bien faite pour le cinéma. Ça s'appelle Emma l'Entremetteuse de Douglas McGrath. C'était en 1996 et c'est un film basé sur le roman Emma de Jane Austen. Cette adaptation, ça offre en fait un premier rôle un peu d'envergure à Gwyneth Paltrow. C'est une comédie romantique, évidemment, avec un petit peu de tragédie, parce que sinon ce serait pas drôle. Et son jeu d'actrice est salué en fait par la critique. Et le film reçoit l'Oscar de la meilleure musique de film, donc c'est pas si mal que ça. Mais la consécration arrivera évidemment pour son rôle de Lady Viola dans Shakespeare in Love de John Madden en 1998. Alors, petit scénario simple, c'est Lady Viola, c'est une jeune femme qui est en fait un peu, qui s'était prise de William Shakespeare, mais elle, son rêve, c'est de jouer le dramaturge. Mais à l'époque de Shakespeare, le dramaturge et la comédie n'est réservé qu'aux hommes, et oui. Et grâce à ce rôle, Gwyneth Paltrow accède à vraiment une célébrité internationale, et puis clou du spectacle, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice. Et ça, c'est vraiment une success story qu'on adore. On enchaîne en 2001 avec l'un de ses rôles les plus cultes, puisqu'encore aujourd'hui, des gens se déguisent en elle pour Halloween. Il s'agit de Margot Tenenbaum, dans la famille Tenenbaum de Wes Anderson. Alors, ça raconte l'histoire d'une famille un peu haute en couleur. Bah, c'est un film de Wes Anderson en même temps. Gwyneth Paltrow incarne donc le rôle de Margot. C'est une fille adoptive qui est vraiment dramaturge, fumeuse. Elle est vraiment particulière. Le film est un petit peu perché, mais c'est très sympa à regarder. C'est très populaire, mine de rien. Et ça a été nommé comme meilleur scénario aux Oscars. C'est une abonnée des Oscars, Gwyneth Paltrow. En 2001 toujours, Gwyneth Paltrow s'essaie à la comédie romantique, parce que vous savez, ça a été le grand genre de l'époque, avec L'amour extra large de Bobby et Peter Farrelly. Alors, en préparant ce podcast, je me suis souvenu de ce film enterré dans mes souvenirs, et en fait, j'avais complètement oublié que c'était Gwyneth Paltrow qui jouait ce rôle. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu ce film une fois à la télé. Elle interprète le rôle de Rosemary, une jeune femme obèse. Et face à elle, il y a Larson, joué par Jack Black, qui tombe amoureux d'elle alors qu'il est sous le charme d'un gourou qui lui fait voir Rosemary mince. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin.
Ouais.
C'est très problématique, oui. C'est très 2001.
Oui, oui.
Et encore pire, Gwyneth Paltrow portait pour le film une fat suit. C'est en fait cet accessoire de cinéma très décrié, puisque c'est une combinaison censée donner l'illusion que vous êtes obèse. Et on rappelle que l'obésité n'est pas un costume. Puis, la franchise Marvel ouvre ses portes.
C'est ton moment, là, Mathieu.
Et moi, je ne peux que dire alléluia. Dès 2008, elle campe le rôle de Pepper, l'assistante de Tony Stark dans Iron Man avec Robert Downey Jr. Elle reviendra pour les deux autres opus, mais vous savez, une fois que vous avez mis un pied dans le MCU, Elisa, c'est quoi le MCU ?
Non, me fais pas ça. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'univers Marvel.
Eh ben, c'est complètement ça, ouais.
Eh ben voilà,
ils
super.
Les films sont tous liés les uns aux autres et il faut savoir un vrai ordre.
J'ai découvert la passion de Mathieu pour l'univers Marvel. Quand j'ai eu le Covid, il s'est plus inquiété du fait que je ne connaissais aucun Spider-Man que de mon état de santé. Donc, il m'a envoyé un montage avec tout ce que je devais regarder.
Ouais.
C'était, il était très premier degré.
Ah oui,
on rigole pas.
Attention.
Avec ça.
Et donc, comme je disais, une fois que vous avez mis un pied dans le MCU, vous n'en sortez jamais totalement, car elle a dû apparaître, je dis bien dû, parce qu'elle n'était même pas au courant elle-même.
Ah ouais ?
Non. Elle a dû apparaître également dans Avengers, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ça fait quand même pas mal de travail, mais pour l'heure, on ne sait pas si elle reviendra dans la franchise parce que, bah.
Ah, tu peux pas spoiler. Non, tu peux pas spoiler.
Bref, voilà.
Mais, voilà. Il lui manque quelqu'un, quoi.
Voilà. Et puis l'icône s'essaye au petit écran dans ma deuxième série préférée ever après Desperate Housewives. Il s'agit de Glee. Oui, je l'ai. Bref. C'est le vrai générique. Ryan Murphy, qui est l'associé du mari de Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk, lui a spécialement écrit le rôle de Holly Holiday. Alors, Ryan Murphy et Brad Falchuk, en fait, c'est des showrunners binômes, des âmes sœurs de création, comme on pourrait dire. Ils sont notamment à l'origine de la superbe série American Horror Story. Mais là, il s'agit bien de Glee, et Ryan Murphy décide de créer le rôle de Holly Holiday, une professeure d'espagnol. Alors, quand tu m'as dit qu'elle était partie en Espagne,
oui, c'est pour ça.
Ce n'est pas pour rien. Alors, c'est une remplaçante, elle est ultra loufoque, donc autant dire, c'est un rôle de composition pour l'actrice. Et d'ailleurs, elle a été élue meilleure guest star de la série par WikiGlee France.
D'accord.
Et ce n'est pas rien. Et c'est vrai qu'elle est vraiment adorable et très attachante dans la série. Et elle y est jusqu'à la fin, d'ailleurs.
Ah ouais ?
Oui. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on la voit plus parce que... Alors, c'est pas la meilleure actrice du monde, non. Mais elle fait partie de ces actrices qui, dès qu'elles apparaissent à l'écran, ça te met du baume au cœur et elle est vraiment feel good à voir. Je sais pas si ça se dit, mais comme Cameron Diaz, tout ça.
Exactement.
Je préfère
Cameron Diaz, si je peux me permettre.
Ouais, elle est plus chaleureuse.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup Gwyneth Paltrow. Mais dans Glee... Elle chante, justement, et je crois qu'elle, c'est pas la seule fois où elle a chanté.
Oui, alors en faisant des recherches, je suis tombée sur plusieurs articles qui parlaient de sa carrière musicale. Donc je me suis dit, mais de quelle carrière parle-t-on ? Et donc oui, figurez-vous que la Jolie Blonde a poussé la chansonnette plusieurs fois. Dans les années 2000, elle a fait plusieurs bandes originales de films, mais c'est passé plutôt inaperçu.
Ouais.
Et c'est en 2010 qu'elle révèle ses talents dans la deuxième saison de Glee,
oui,
où elle reprend plusieurs tubes, dont Umbrella d'une certaine Rihanna, je ne sais pas si tu connais.
Alors, si je peux apporter ma petite précision.
Allez, vas-y.
C'est un mash-up, c'est iconique, hein, vraiment.
Oui, c'est un mash-up.
Avec Singing in the Rain.
Exactement.
Et c'est fabuleux.
Eh bien, on écoute.
Oh oui.
L'année d'après, elle est à l'affiche du film Country Strong, où elle interprète une chanteuse de country. Et évidemment, elle chante la bande originale. Et la même année, elle chante encore au Grammy. Donc,
c'est Céline Dion, en fait.
Et la rumeur dit qu'à l'époque, son mari de l'époque, Chris Martin, on en parlera plus tard, qui est le leader du groupe Coldplay, lui aurait donné des cours pour améliorer sa technique vocale. Et je trouve, là, quand on a écouté Umbrella et tout, je trouve que c'est pas si mal. Elle a une petite voix sympathique.
Franchement, ça se tient complètement.
Elle débriefe. C'est l'heure du CV Love. Et il faut dire que c'est plutôt intéressant. Alors, certains l'auraient peut-être oublié, mais dans les années 90, Gwyneth Paltrow et Brad Pitt forment le couple le plus glamour d'Hollywood. C'est sur le tournage de Seven, tu l'as dit, qu'ils se rencontrent. Dans le film, tu l'as dit, ils incarnent un couple. Et très vite, bah, la fiction prend le pas sur la réalité,
ah,
comme je la comprends.
On adore.
Et à la fin du tournage, ils officialisent leur relation. Et alors là, ils enchaînent les tapis rouges main dans la main. Ils sont beaux, jeunes, célèbres et plus amoureux que jamais. Et leur amour est tellement fort qu'ils vont même jusqu'à se ressembler physiquement.
Ah,
c'est-à-dire
ouais,
que Brad Pitt va copier la coiffure de sa copine. Et il y a une rumeur à l'époque qui racontait qu'ils allaient chez le même coiffeur pour avoir un look similaire.
J'adore. C'était vraiment des icônes de mode, tous les deux.
Oui,
avec les petites vestes en cuir, les petites robes. C'était très minimaliste et tout, mais très sympa.
Mais moi, j'avais complètement oublié cette période-là.
Ah non, pas moi.
Ok, très bien. Voilà. Non, mais c'est vrai que son couple avec Jennifer Aniston, il a complètement...
Oui, oui, ça outshine tout ça, mais...
Exactement. Donc, à cette époque, Brad Pitt, il a 31 ans. Gwyneth, elle a 23 ans et elle débute...
Elle débute
au cinéma alors que lui, c'est déjà un acteur confirmé. Et en 96, quand il gagne le Golden Globes du meilleur second rôle pour le film 12 Monkeys, il en profite pour faire une jolie déclaration à celle qu'il appelle « l'amour de sa vie ». Et son ange.
Oui, bien sûr.
Il n'avait pas lu dans l'avenir, finalement. Alors, il se fiance la même année et il va même jusqu'à brutaliser Harvey Weinstein après avoir appris que ce dernier aurait tenté d'agresser Gwyneth Paltrow. Alors, c'est l'actrice qui le racontera des années plus tard dans son podcast. Elle explique qu'en fait, Brad Pitt l'aurait violemment poussé contre le mur en hurlant « Si jamais tu la retouches, je te tue ». Ouais.
Ouais.
Et il n'a plus jamais rien fait.
Bah,
enfin, avec elle. Ouais. Et alors que tout semblait leur sourire, le couple se sépare brutalement. En 97, après 3 ans de romance, si on ne connaît pas vraiment les raisons officielles, on sait juste que c'est elle qui a pris la poudre d'escampette. Elle dira des années plus tard, je cite, « J'ai fait foirer tellement de relations amoureuses, je suis une bonne amie, une bonne sœur, une bonne fille et une bonne mère, mais je suis très vulnérable en amour. Cela a mis du temps pour que j'apprenne à avoir de vraies relations romantiques. Alors Brad, si tu m'écoutes, j'ai foiré. Je n'étais qu'une gamine, j'avais 22 ans quand je l'ai rencontrée, je n'étais pas prête et il était trop bien pour moi. »
Oh, elle est...
Ouais, elle est dure avec elle-même.
Elle se flagelle, je trouve.
Oui, franchement.
Non, franchement, Gwyneth, t'es une belle personne.
Oui. Alors, malgré la rupture, ils sont restés très, très, très proches en interview. Oui.
Je pensais que justement, ils avaient...
Non. En interview, ils se font toujours tout un tas de compliments. Elle l'a même invité dans son podcast où il lui dit, je cite, « C'est génial de t'avoir en tant qu'amie aujourd'hui et je t'aime. »
Oh non.
Donc Mathieu, si tu veux rivaliser avec Brad Pitt dans l'art des compliments, c'est ton moment. Est-ce que t'as un truc à me dire ?
C'est vraiment un bonheur de travailler avec toi et d'avoir cette petite conversation ce soir.
C'était nul comme compliment.
Oui.
Alors, après Brad Pitt, Gwyneth, elle va sortir avec Ben Affleck pendant 3 ans. Je ne le savais pas.
Ben moi non plus.
Et puis...
Ah, ils ont tourné un film. Je crois qu'ils étaient à l'affiche d'un film ensemble et tout.
Sans doute.
Je crois qu'elle elle fricote sur les tournages, comme on dit.
Oh, je ferais la même chose.
Oh oui, moi aussi.
Et puis en 2002, elle rencontre Chris Martin, donc le chanteur du groupe Coldplay. Et là... C'est le coup de foudre. Alors, entre eux, tout va très vite. Ils se marient en 2003, dans la plus grande discrétion. Puis, ils deviennent parents pour la première fois d'une petite Apple, une fille, en 2004. Puis, d'un garçon en 2006, baptisé Moses, je ne sais pas.
Ouais, Moses.
Voilà. Et contrairement à sa relation avec Brad Pitt, Gwyneth et Chris sont très, très, très discrets. On les voit rarement, voire quasi jamais, hein, sur les tapis rouges. Et ils sont même élus par la BBC le couple de célébrités les plus énervants de l'année 2008. Et après 10 ans de relation, le couple a annoncé leur divorce. Mais alors, c'est pas pour autant qu'ils vont se faire la guerre. Bien, bien au contraire. Ils sont même partis en vacances ensemble après leur divorce. Ils se voient très souvent. Gwyneth, elle poste très souvent des photos du père de ses enfants. Et en fait, selon les rumeurs, ça faisait plusieurs années qu'ils n'étaient plus vraiment ensemble. Mmh. Ils étaient en union libre et ils se permettaient l'un et l'autre de fréquenter d'autres personnes.
Ah,
ouais, intéressant.
Ça m'étonnerait pas. En
fait. Moi non plus.
C'est
ouais.
Complètement la vibe des deux.
Ok, t'es chez eux,
J'ai des enfants.
Ok.
J'ai fait partie.
D'accord, très bien. C'est ta vie privée après, Mathieu. Et puis depuis, Gwyneth Paltrow, elle s'est remariée avec, tu l'as dit, Brad Falchuk, qui est un producteur très très réputé. Et dans une récente interview, elle s'est laissée aller à quelques confidences sur sa vie personnelle. Et je trouve ça très très mignon, je vous le lis. Elle a dit « Je sais que mon ex-mari était fait pour être le père de mes enfants. Et je sais que mon mari actuel est fait pour être la personne avec qui je vieillirai. » C'est mignon et ça, ça montre une autre image du divorce, comme quoi on peut toujours être ami après un divorce et qu'on peut avoir plusieurs amours dans sa vie. J'aime beaucoup.
Mais moi, je pense que c'est vraiment une personne qui ne veut pas s'embrouiller avec les gens. En fait, je pense qu'elle est vraiment très dans le spirituel et dans le bien-être, etc. Donc, je pense qu'elle a tendance à apaiser les tensions et on a besoin de personnes comme ça dans ce monde de brutes.
Elle débrief. Bon Mathieu, est-ce que t'es prêt à te transformer en Christophe Ondelat et nous raconter les dessous de ce procès, cette histoire d'accident de ski à 3 millions de dollars quand même?
Ah, je revais ma robe d'avocat et je passe à la barre. C'est le procès le plus lunaire de cette décennie et c'est comme ça que l'on crée des vrais moments de pop culture Et pour ça, je remercie le petit monde des optométristes. Alors, pourquoi donc les optométristes, me direz-vous ? Eh bien, laissez-moi vous résumer la situation. Nous sommes le 21 mars 2023 et s'ouvre ainsi le procès loufoque diffusé quasiment en direct opposant Gwyneth Paltrow, actrice émérite, et Terry Sanderson, optométriste à la retraite. Alors, optométriste, il me semble que c'est un peu un ostéo des yeux, c'est... voilà.
Ouais. En tout cas, t'aurais pas fait long feu dans Grey's Anatomy.
Non. Il me semble que vous avez ça, monsieur. Je pense. L'homme accuse Gwyneth Paltrow de l'avoir grièvement blessée lors de vacances au ski en 2016 à Deer Valley, station huppée des Rocheuses. Selon ce dernier, la star lui aurait foncé dessus en dévalant les pistes, le percutant et le laissant ainsi au sol sans même lui venir en aide. Pas bien, dans les faits.
Non, mais après, j'ai l'impression que le ski, c'est un peu ça. Hein.
Ça... Ouais. Donc, j'ai jamais fait de ski de ma vie, moi. Donc,
moi, j'en ai fait quand j'étais petite et j'ai zéro souvenir.
Ouais. Moi, vraiment, je déteste le froid. Et...
Bah, pareil.
Et voilà. L'homme de 76 ans souffrirait depuis d'une lésion cérébrale ainsi que de 4 côtes cassées et d'autres blessures graves. Montant du préjudice demandé par le plaignant, 3 millions de dollars. Soit... $33 par heure depuis le moment de l'accident.
C'est du génie.
C'est bien calculé.
Ah ouais.
Mais il faut savoir que le procès a d'ailleurs eu une première partie en 2019.
D'accord.
Où la version de Terry Sanderson était plus ou moins la même. De son côté, Gwyneth Paltrow a réfuté toutes ses affirmations vendredi 24 mars, donc c'était il n'y a pas si longtemps, devant le tribunal de l'Utah, et a même porté plainte à l'encontre du retraité. Selon elle, c'est Terry Sanderson qui l'avait clairement percuté sur cette piste de ski. Les avocats de l'actrice ont accusé à leur tour le médecin d'avoir porté plainte par plaisir. Et alors, grande seigneur, Gwyneth Paltrow ne demande que $1 symbolique de dommages et réparations, ainsi que la prise en charge de ses frais d'avocat. Mais attendez, ça, ce ne sont que les faits de ce procès bien plus fantaisiste qu'il n'y paraît. Le 27 mars, alors que le procès suivait son cours, Terry Sanderson a assuré que sa nature avait changé depuis l'accident.
Ouais, ça c'est fou.
Il a par la suite expliqué que les interactions avec sa famille étaient à présent plus difficile et que quelque chose n'allait pas avec sa, je cite, nature. Oui, oui, Terry Sanderson se sentait différent et a affirmé qu'une autre personne habite dans son corps depuis l'accident. Alors là,
ouais.
Je ne sais quoi dire.
Moi non plus.
Moi, je trouve ça même génial quand on ne sait plus quoi inventer, on s'en remet aux forces surnaturelles. Bon, bah pourquoi pas. Les avocats de Gwyneth Paltrow ont dû répondre à ces accusations plutôt fumeuses en disant que bah, si l'homme se sentait différent, c'est peut-être parce qu'il vieillissait et qu'il n'avait plus totalement toute sa tête. Bah, c'est possible à 76 ans, malheureusement. Pour apporter un peu de sérieux à ce procès, le parti de l'actrice a mobilisé un ingénieur en biochimie, rien que ça, appelé à la barre pour corroborer sa version des faits. L'homme se serait effectivement encastré dans son dos selon les lois de la physique. Alors là, vraiment, ça part dans tous les sens, mais apparemment, la physique nous dit que c'est bon. En réponse, l'optométriste a convoqué un médecin qui témoigne... Préparez-vous. Qui témoigne de la perte de goût lors de ses dégustations de vin qu'il aimait tant avant le drame. Moi, j'ai eu la même chose et ça s'appelait le Covid-19.
Pareil. Bon. Mais moi, je me souviens, parce que c'est des images qui tournaient en boucle sur TikTok, d'une avocate qui est devenue une vraie star dans ce procès.
Alors, rajoutez à tout cela une avocate star de TikTok, en effet, et vous obtenez un procès encore plus rocambolesque. Elle s'appelle Christine Van Orman, c'était l'avocate du plaignant, donc de Terry Sanderson, mais elle semblait avoir beaucoup plus envie de défendre Gwyneth Paltrow que son propre client. Ses répliques sont désormais quasi cultes. « Je parie que vous portiez la plus belle tenue de ski de la station » ou encore « Vous mesurez combien ? 1m77 ?»« Oh, je suis jalouse !» ou alors « Vous êtes amie avec Taylor Swift ?» On écoute, d'ailleurs, c'est assez hilarant.
« May I ask how tall you are ?»
I'm just under 5'10".
Okay, I am so jealous.
I think I'm shrinking though.
You and me both. I have to wear 4-inch heels just to make it to 5'5".
Well, so. They're very nice.
Well, thank you.
Alors, comme vous venez de l'écouter, c'est plutôt drôle, oui, mais en fait, ça n'a pas fait rire tout le monde, puisque bah, beaucoup d'internautes ont relevé le manque de professionnalisme de la part de l'avocate qui voulait plus faire copine-copine avec Gwyneth Paltrow que bah, vraiment l'inculper et la mettre en prison. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'était un petit peu ça son but, quand même.
Mais en vrai, Terry Sanderson, là, il nous a fait un petit buzz, il voulait profiter de sa notoriété.
Bah, c'est rapidement la conclusion qu'en tire la partie de la défense. À un moment donné du procès, l'homme de 76 ans a été questionné au sujet d'un mail qu'il avait envoyé à ses filles à propos de l'accident, dont l'objet était « Je suis célèbre ». C'est bizarre de se présenter la situation comme ça, sachant que, on rappelle, il était censé souffrir de multiples blessures, maux, etc. Et en fait, il s'est justifié en disant « Je n'ai pas bien choisi mes mots, j'essayais de mettre de la légèreté dans une situation grave et ça s'est retourné contre moi. » Bon, pas très concluant. Vaseux, ouais. Gwyneth Paltrow se rend bien compte en fait, que le retraité tente d'abuser de sa notoriété et ainsi toucher un joli petit pactole. Elle avouera plus tard que laisser passer ses allégations mensongères aurait mis en cause son intégrité. Ça, c'est assez vrai. Mais tu vas me demander, Elisa, quid des enfants qui étaient présents en fait, avec leur mère au moment de l'accident ?
Bah oui, ils ont témoigné, non ?
Eh bien oui, complètement. En fait, Apple et Moses Martin ont fourni un témoignage par l'intermédiaire de leur avocat, Stephen Owens. En fait, à cause d'emploi du temps assez chargé, les deux adolescents n'ont pas pu se présenter au tribunal. Bon, écoutez, leurs témoignages ont quand même été entendus. Dans sa déclaration, le fils de l'actrice affirme avoir brièvement vu la collision. Il dit, je cite, « J'ai reconnu l'équipement qu'elle portait, j'ai réalisé que c'était ma mère. En skiant vers elle, j'ai entendu ma mère crier après l'autre personne. Elle disait quelque chose du genre « Mais qu'est-ce qui se passe, putain ?» Vous venez de tomber sur moi. Apple Martin, elle, n'aurait pas vu en fait le choc se produire, donc elle ne peut pas témoigner de ça. Mais elle se souvient en fait de l'état de sa mère au déjeuner après l'accident, et elle lui a demandé en fait ce qui lui arrivait, et elle lui a répondu « Ce connard m'a heurté, il a couru droit dans mon dos. » Elle aurait ensuite ajouté qu'elle n'avait jamais vu sa mère secouée à ce point et qu'elle était très bouleversée. Bon, évidemment, le verdict est tombé en faveur de Gwyneth Paltrow qui a gagné son procès et donc le dollar qu'elle avait demandé. En quittant le tribunal, l'actrice est allée voir l'homme de 76 ans en lui chuchotant « Je vous souhaite bonne chance, I wish you well ». Ce à ce quoi il aurait répondu « Merci ma chère ». Donc c'est assez élégant.
Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi les tenues choisies par Gwyneth Paltrow pendant le procès. Il y a un vrai sujet là-dessus.
Ouais, en fait, quand on est une star aussi médiatisée, on peut pas arriver à un procès, surtout face à un anonyme, si je puis dire. On peut pas arriver avec un look total Balenciaga avec des logos partout, évidemment. Donc il faut la jouer fine, bien sûr, mais ne pas non plus paraître complètement démunie et arriver avec des haillons. Donc il y a un vrai dressing de tribunal qui a été savamment étudié par Gwyneth Paltrow. Elle a porté des marques comme Loro Piana, Brunello Cucinelli, The Row, donc des marques très minimalistes, mais des belles matières, que des looks unis d'ailleurs, qui faisaient vraiment en fait, sérieux et on avait envie de la croire, en fait. C'est un look de « je suis innocente », entre guillemets, et en fait, ça a marché parce que ces looks ont vraiment buzzé sur les réseaux sociaux. Mais elle a quand même gardé sa petite malice parce que faut pas croire, mais elle a quand même une bonne dose d'humour, Gwyneth Paltrow. Et elle est arrivée avec une paire de lunettes, un peu comme celles que tu as sur la tête, mes lunettes, des vieilles lunettes, un peu années 70. Est-ce que vous voyez les lunettes de Jeffrey Dahmer ? Bon, c'est un peu ça. Et les gens sur Twitter ont rapidement relevé le fait que c'était sans doute un petit clin d'œil au fait que c'était un optométriste retraité de 76 ans qui, mine de rien, a dû en vendre des paires de lunettes comme ça ou régler des paires de lunettes comme ça. Et les gens ont... Alors, ça se trouve, c'est un
pur fait du hasard. Ouais, moi, j'y crois pas.
Moi, ça m'étonnerait pas, mine de rien.
Un petit clin d'œil comme ça ?
Un petit clin d'œil, assez drôle. Pourquoi pas ?
Ah, elle est un peu insolente.
Ouais. Quand t'as un homme de 76 ans qui veut lui gratter tout son argent, je pense que tu peux être un petit peu insolent, non ?
Elle débriefe.
Je l'ai dit tout à l'heure, mais dernièrement, si on parle de Gwyneth Paltrow, c'est pas vraiment pour sa carrière d'actrice, mais pour l'empire qu'elle a créé autour du bien-être. En 2008, elle lance Goop, un site internet dédié au bien-être. Alors jusqu'ici, rien d'anormal hein, dans le quotidien d'une star qui décide de se lancer dans le monde de la beauté. Mais en réalité, il s'agit d'un business ultra juteux se basant sur des pratiques thérapeutiques alternatives sans fondement scientifique. Et oui, c'est là que le bât blesse. L'entreprise commercialise des produits de bien-être ou fait la promotion d'astuces ou méthodes jugées très dangereuses par les experts. Alors, par exemple, le bain pour vagin. Ouais. Je m'explique. En 2015, elle explique à ses internautes l'importance de nettoyer son vagin à la vapeur, un soin qu'elle ferait régulièrement à la clinique et qui consiste à s'asseoir au-dessus d'un bol d'eau fumante infusée d'herbes diverses. Cela permettrait, je cite, de « réguler les menstruations, d'améliorer la circulation et de préserver la santé utérine ». Alors évidemment, aucune étude scientifique ne peut confirmer ces propos. Et pire encore, une armée de gynécologues s'est empressée de démentir ces fameux bienfaits en indiquant qu'en fait, la vapeur était très dangereuse pour le vagin. Donc,
attention.
Donc attention, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme polémique ? Bah écoute, les stickers qui rééquilibrent la fréquence de l'énergie dans le corps, conçus avec le même matériau que les combinaisons spatiales des astronautes de la NASA. Alors c'est ce qui était écrit dans le site, sur le site. Et bah évidemment Mathieu, c'est un mensonge. Et les scientifiques de la NASA ont demandé à l'entreprise de faire retirer cette notion mensongère parce que c'était impossible. Je pourrais également te parler du lavement au café que Goop soutient activement et qui est évidemment très dangereux.
Ou un lavement intérieur ?
Un lavement intérieur avec du café.
Mon Dieu !
Oui.
Oh là là !
Ou sinon, il y a un médecin agréé Goop qui dit que les soutiens-gorge pourraient être responsables du cancer. Donc, c'est assez grave.
Ouais.
Et dernièrement, Gwyneth Paltrow, elle s'est confiée sur ses nouvelles pratiques bien-être et a avoué avoir eu recours à l'ozonothérapie rectale.
Qu'est-ce que c'est ?
Bien sûr, je te le dis tout de suite. C'est une pratique qui consiste tout simplement à s'injecter de l'ozone, dont l'ozone, c'est une molécule de gaz, dans l'anus.
Qui ne l'a jamais fait ?
Bien sûr, je demande. D'après elle, cette méthode aurait de multiples avantages comme la réduction du stress oxydatif, le renforcement du système immunitaire et la protection de l'organisme contre des bactéries ou des champignons.
D'accord.
Bon, c'est également faux. Et de nombreux médecins ont alerté sur le danger de cette pratique. Et malgré toutes ces polémiques, l'entreprise Goop, elle se porte très bien. Il y a même eu une émission disponible sur Netflix baptisée The Goop Lab. Le principe, très simple, dans chaque épisode, des employés de l'entreprise se portent volontaires pour tester de nouvelles techniques de bien-être. Alors ça donne lieu à de sacrés moments. Déjà, dès le premier épisode, ils prennent des champignons hallucinogènes en Jamaïque.
Oh,
ouais, ça donne le ton.
C'est pas vrai.
Dans le deuxième, ils testent une technique de respiration par température glaciale, donc c'est une espèce de yoga où il fait hyper froid.
Oh.
Il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'ils sont nus, quasiment nus. Ça s'appelle la méthode Wim Hof, sauf que petit problème, il se trouve que plusieurs personnes qui ont déjà pratiqué cette méthode dans le passé sont décédées.
Arrête.
Oui. Donc c'est
horrible.
C'est horrible.
Bah attends, comment elle fait pour passer entre les mailles du filet de la justice du coup ?
Parce qu'elle est maligne. Sur son site internet, la marque ajoute en petite ligne un avertissement sur leurs produits afin d'éviter les poursuites judiciaires. C'est-à-dire, testez-le, mais c'est à vos risques et périls. En revanche, l'entreprise a quand même dû payer une amende de $145,000 pour publicité mensongère. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, ils ont commercialisé une pierre de jade en forme d'œuf à placer dans le vagin,
oui, je m'en souviens,
qui était censé prévenir les fuites urinaires, aider au rééquilibrage hormonal, à préserver même de la dépression. Le tout pour la modique somme de $66. C'est pas rien. Et évidemment, c'est faux et c'est très très dangereux. Donc là, elle a été punie, la Gwyneth. Mais quand tu regardes sur le site, c'est toujours en ligne. Mais ils te disent, faites attention.
Et c'est vraiment elle qui... Ouais, juste son nom fait partie... elle est vraiment à la tête du marketing.
Je ne sais pas si elle a la tête du marketing, mais en tout cas, elle représente vraiment la marque, puisqu'il y a plein de dérivés derrière Goop. Elle a d'ailleurs fait un podcast là-dessus. Ouais. Il y a même des conférences où elle invite des experts un peu fumeux. Je me souviens d'une femme, je crois, qui était neurochirurgienne et qui racontait qu'elle est morte, qu'elle a vécu au paradis et qu'elle est revenue en vie.
Pareil.
Mais en fait, c'est un peu ça l'ADN de l'entreprise,
oui.
C'est qu'ils alimentent la méfiance envers la science et la médecine,
ouais.
Et ils mettent en lumière des experts louches. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la nouvelle gourou
une
du bien-être.
Gourou,
quoi.
Ouais, c'est vraiment
devenu
une secte.
Une gourou, ouais, c'est ça.
Ah, moi, je me souviens surtout de la bougie, la fameuse bougie odeur
vagin
de Gwyneth,
ouais.
Qui avait été en rupture de stock, je pense, en quelques minutes.
C'est fou, hein.
C'est...
Mais elle a un truc...
Qui veut sentir la... Mais oui, elle a un truc de « je lui fais confiance ».
Ouais, c'est ça. C'est, on a envie... Mais aussi, tu vois, c'est quoi dire ? Mais c'est la petite blonde,
ah
bah,
elle
les yeux clairs, tu vois.
Elle paraît en super bonne santé.
Exactement.
Elle a 47 ans, elle en fait 32, même
ouais,
pas.
Ouais, ouais.
Donc forcément, on a envie de connaître son, bah, son, ses secrets bien-être, ses secrets,
ouais,
ses secrets jeunesse. Donc on se dit... bah si Gwyneth le fait, ça doit pas être si grave que ça. Et non.
Je oui, ce qui est fou,
pas sûr
c'est
qu'elle
que...
se mette des pierres de jade dans les
dans
orifices.
Vagin. Ce qui est fou, c'est que plus c'est gros, plus ça passe.
C'est vrai.
Mais je pense qu'elle fait exprès aussi.
Bien sûr.
Je pense qu'elle sait que ça va faire le buzz.
Mais oui.
Et que malgré tout, en plus, l'entreprise se porte très très bien.
Mais ça m'étonne pas.
Et j'ai lu un article qui disait qu'en fait, les gens qui achètent, c'est des gens extrêmement riches.
Ah oui.
Et qui, bah, qui sont capables, en fait, s'ils ont un souci de santé, de se... parce qu'on est aux États-Unis, hein,
oui,
les États-Unis, qui sont capables de se faire soigner, tu vois, donc... Ouais, donc si j'ai un conseil beauté à vous donner, puisque finalement je suis journaliste beauté, n'achetez rien sur ce site.
Bah, ou la bougie senteur...
Oui, si vous avez envie de, d'avoir un...
Senteur vagin.
Une petite odeur, voilà.
Mais bon, pas plus.
Elle débrief. Est-ce qu'il serait pas l'heure de jouer, là ?
Ah, j'ai envie de dire cette fameuse phrase. Et dans la plus pure tradition de Elle Débrief, je vous ai préparé un quiz. Alors, j'avais pas envie de faire un quiz sur Gwyneth Paltrow.
Bah t'as bien raison parce que j'aurais pas su répondre.
Je sais. Donc j'ai fait un quiz, les stars et la justice.
Ah !
Première question. Alors je pense que tu vas pas être, connaître tout tout tout, mais
oui,
il va
mais
y avoir
de la
déduction.
Hein. J'ai l'habitude.
Première question. Jane Fonda est arrêtée en 1970. Jane Fonda, on voit tout ce qu'il sait, hein, bien sûr. Petite icône. Au cours d'un contrôle de sécurité à l'aéroport de Cleveland. Jusque-là, tout va bien.
Oui.
Les douaniers pensaient que la comédienne transportait de la drogue dans son sac. Pourquoi est-elle rapidement libérée ?
Donc, c'était pas de la drogue qu'elle avait ?
Non.
C'était... Bah, elle l'a mangée pour montrer. Elle l'a fait...
Encore plus simple.
Bah, elle l'a fumée.
Non.
Elle l'a.
Encore plus simple.
Elle l'a jeté à la poubelle. Elle l'a...
Qu'est-ce que c'était ?
C'était de l'herbe.
Non.
Des épices.
Non.
C'était. Qu'est-ce qui ressemble à de la drogue ? Attends, c'était quoi qu'elle... On pensait que c'était de quoi ?
Alors, j'ai pas le. Alors.
Non, mais
j'imagine du coup que ça devait être peut-être de l'ecstasy.
Bah, elle l'a croqué ?
Non.
Bon, attends, attends, non, 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 je vais trouver en fait. Elle l'a. Je pars trop loin. Bah, elle a montré.
Pourquoi a-t-elle été rapidement libérée ?
Bah, parce que c'était des médocs.
Parce que c'était des vitamines.
D'accord,
simplement.
Ok, ok.
Deuxième question. Tu le sais peut-être, mais en 2014, Justin Bieber est arrêté pour non-présentation de son permis de conduire et excès de vitesse par la police de Los Angeles.
Je le sais bien puisque j'en ai fait une chronique dans l'épisode Justin Bieber que je vous invite à écouter.
Peut-être que tu as déjà parlé de ce fait alors. Incarcéré, il est relâché après avoir payé une caution de 2 500 $.
Oui.
Qu'ont fait les Américains après qu'ils soient sortis de prison ?
Alors, j'avais lu un truc. Ils voulaient plus qu'ils rentrent dans le pays, c'est ça ?
Exactement.
Ils ont fait une pétition.
Ils lui ont demandé de quitter le territoire parce que ouais. C'était la deuxième personnalité la plus détestée des États-Unis. Alors, la première... Oh, j'ai peur que ce soit Britney Spears encore. Elle l'a été pendant très longtemps, mais je ne sais pas. En 2014, peut-être, c'était fini.
Elle a été pendant
ah oui,
très longtemps.
Ah oui, époque 2007-2008, c'était la personnalité la plus détestée des États-Unis.
Mon Dieu.
Oui. Écoutez l'épisode Britney Spears. Bah, écoute, un point, bravo.
Jane Fonda, tu me l'accordes pas ?
Ah, si, si, si.
Merci.
Oui, parce que... C'est... Ouais.
Un et demi,
un
allez.
Et demi, un et demi. Troisième question. Matthew McConaughey, donc acteur émérite, a eu des ennuis avec la police. Les forces de l'ordre ont été appelées vers 3h du matin pour tapage nocturne par les voisins de l'acteur. Quelle n'a pas été la surprise de la police de trouver l'acteur nu comme un ver dans son jardin, un joint à la bouche, chantant et jouant d'un instrument. Quel était cet instrument ?
Donc, si tu me poses la question, c'est que c'est pas du piano, genre ?
Non.
Un ukulélé ?
Alors, Elodie serait très heureuse que Matthew McConaughey joue du ukulélé. C'est pas ça, mais c'est un peu dans le même esprit, ouais.
Après, moi, je suis très nulle en instrument, malgré ma carrière de musicienne.
Oui.
Je sais pas.
Eh bien, c'était du tam-tam.
Ah, alors, intéressant.
Oui, imagine Matthew McConaughey
ouais, j'imagine, là.
En train de fumer dans son jardin, à poil.
En faisant du tam-tam.
En faisant du tam-tam. Exceptionnel. Dernière question. En 2002, Winona Ryder, actrice de Édouard Romain d'Argent, Stranger Things, est jugé pour avoir volé à l'étalage des vêtements de luxe chez Saks à Beverly Hills. Saks étant un grand centre commercial de luxe. La plupart des pièces qu'elle a volées étaient des pièces Marc Jacobs. Qu'a-t-elle fait pour son procès ?
Elle s'est habillée en Marc Jacobs ?
Elle s'est habillée en Marc Jacobs.
J'adore, c'est... ça c'est de l'insolence. Hein.
Oui,
ça, ça j'adore.
Du même acabit que les lunettes de Gwyneth Paltrow pour Terry Sanderson. Eh ben écoute, ça te fait 2,5 points, je crois. C'est pas mal, 2,5 points.
Plus,
sur...
non
2,5 points sur 4. T'as non. pas eu le tam-tam.
Bah c'est le seul truc que j'ai pas eu. Hein.
Et je t'ai mis 1,5 point pour Jane Fonda. Ouais. Oui.
Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les maths. Mais visiblement, j'adore la justice et les célébrités. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be C'est la fin de cet épisode Elle Débrief et on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se quitte en écoutant The Fix, une chanson composée par Chris Martin après le décès du père de Gwyneth Paltrow. Il l'a écrit pour la réconforter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de lire plus d'infos sur Gwyneth et sur tous les people sur Elle.fr. Salut Mathieu.
Salut Elisa.
Elle Débrief.
Elle Débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle Débrief en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.